Et vous écoutez France Sépulture.
To die, to be really dead, that must be glorious.
Bram Stoker, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre à la Cinémathèque en ce samedi pour vous faire partager toutes les saveurs de l'abîme et les délices de la mort vivante en déambulant au long de l'exposition Vampire de Dracula à Buffy. Son concepteur et commissaire Mathieu Orléans est notre invité. Mais avant d'ouvrir solennellement l'éventail du château Dracula, ouvrons, comme chaque samedi, notre encyclopédie pratique des mauvais genres et avec qui cette semaine, ma chère Céline.
Avec Julien Langendorf, qui n'est pas vampire, mais artiste collagiste. Cela dit, ces collages, véritables œuvres alchimiques, pourraient sans difficulté figurer dans un château transylvanien, tant ils vous transportent dans des paysages intérieurs, étranges et malades, poétiques et magiques.
Par rapport à la magie, je pense qu'il est quand même plus du côté de l'imagerie, de la théâtralité, peut-être de l'artifice, et du potentiel de rêverie que ça peut amener. Et puis... Parce que bon, moi, je suis pas magicien personnellement, je fais pas de. Enfin bon, il y a des choses qui m'ont toujours intéressé aussi, comme le tarot et le spiritisme, mais qui sont pas spécialement vraiment la magie. Après, voilà, c'est des univers qui m'ont toujours inspiré. Voilà, tout ce qui est occulte, j'ai toujours trouvé ça très romantique, très beau. Tout ce qui est ténébreux, magie noire. Voilà, bon, d'une certaine manière, il y a un côté. Assez 19e quoi dans tout ça, c'est un côté très romantisme noir.
Plutôt dans les images ou même dans une manière d'être ou une manière de réfléchir ou...
Je pense une manière d'être, ouais. Alors je sais pas si c'est... Oui, c'est sans doute un peu anachronique. J'essaye de... C'est une sorte de synthèse, de gestes comme ça que j'aime, romantique du 19e, mais avec des iconographies plus contemporaines. C'est-à-dire, les choses sont déchirées, un peu souillées comme ça de peinture... brûlé, il y a un truc complètement désacralisé, quoi. C'est-à-dire que les déesses, c'est des modèles de magazines érotiques ou porno, quoi. Donc voilà, je pense qu'on est toujours dans cette dichotomie, quoi, entre une sorte de sacré, de côté un peu plus trash, l'innocence d'un côté, les ténèbres de l'autre. Ouais, j'évolue un peu là-dedans. Des images pornographiques, la beauté est déjà problématique à la base. C'est pas une beauté très pure. Donc voilà, en fait, j'ai mélangé ça à des paysages, parfois très solennels, donc un côté un peu Friedrich, avec des modèles porno, des bouts comme ça de chaînes, des iconographies un peu SM, des plantes, des bougies, des papillons, une atmosphère globale. Je me suis pas dit, je vais faire quelque chose qui évoque un romantisme. Voilà, je pense que peut-être ça se dégage de l'ensemble.
Vous pouvez retrouver l'univers de Julien Langendorf sur son site www.julienlangendorf.com, mais aussi à Lyon, puisque son travail est exposé en ce moment dans le cadre de l'exposition collective Éloge de la curiosité, c'est à la galerie Henri Chartier, ainsi qu'à Paris, à la librairie Galerie OFR, et ce jusqu'au 15 octobre. Plus d'informations sur la page internet de Mauvais Genre.
Merci Céline pour cette entrée. Julien Langendorf de notre encyclopédie pratique des mauvais genres. Et l'heure est venue donc dans Mauvais Genre d'ouvrir tout grand, à double battant, l'éventail du château Dracula. Et on va les ouvrir avec le chambellan du maître. Bonjour Mathieu Orléans.
Bonjour, bienvenue à la
Cinémathèque. Merci, vous êtes le commissaire donc de cette exposition Vampire qui se tient jusqu'au mois de janvier à la Cinémathèque à Paris. Première question, le froid qui règne dans l'exposition est voulu, bien évidemment.
Alors, si vous fait plaisir, tant mieux. Il est nécessaire à la protection des œuvres, mais aussi, pourquoi pas, effectivement, à la protection de nos chers vampires qui habiteront ce lieu pendant quelques mois hivernaux.
Effectivement, on a un sentiment de caveau, de cave, qui est tout à fait propice à la rêverie, à la déambulation vampirique. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a amené à cette exposition? Est-ce que vous êtes vampirologue? Parce qu'il y en a un certain nombre de vampirologues labellisés, Alain Pozzoli et autres. Vous-même, est-ce que vous êtes mordu?
Alors je ne suis pas, non, vampirologue de tradition, en tout cas pas depuis très longtemps. Forcément, les 3 années de travail qui m'ont amené à faire ce projet m'ont connecté aux autres vampirologues et m'ont peut-être rendu un peu moi-même. Ça serait à eux de le dire, un petit peu vampirologue moi-même. Non, moi, je suis plutôt ici à la Cinémathèque chargé des expos, cinéphile, intéressé par les rapports entre cinéma et art contemporain. Et le déclic s'est peut-être fait parce que j'en ai moi-même un souvenir un peu trouble de la vision 2013 du film de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive, qui, effectivement, je trouvais renouvelait de manière extrêmement intelligente la mythologie du vampire, tant dans le caractère même des personnages, du rapport à la musique, du rapport à la géographie. On est loin des châteaux hantés de Roumanie, mais plutôt entre les usines désaffectées de Détroit et les médinas tortueuses de Tanger. Et je trouvais qu'il y avait là quelque chose d'une proposition très originale qui m'a donné envie de me souvenir de tout ce qu'il y avait eu avant lui, que je connaissais et que je ne connaissais pas toujours non plus, parce qu'il y a beaucoup de films de vampires qui sont parfois durs d'accès. Et c'est dans ce travail de mémoire, d'archives, d'archéologie, que tout d'un coup, il m'a semblé évident qu'il y avait un sujet qui dépassait ma propre curiosité du moment, mais qui était un vrai sujet d'exposition, pourquoi pas, parce qu'effectivement, j'ai croisé sur ma route des œuvres d'art qu'on voit ici, et qui me semblait importante, le Cubine par exemple, qui est dès la première salle, et qui se nomme Le Vampire. Donc il y avait une tradition du vampirisme ailleurs que dans le cinéma, même si le cinéma l'a amplifié, magnifié, popularisé.
C'est sans doute la première exposition consacrée aux vampires de cinéma, ou est-ce que vous avez été précédé par d'illustres devanciers ?
Non, je crois que c'est la première. En effet, il y a des ouvrages sur les vampires, plus ou moins illustrés, plus ou moins pointus, plus ou moins philosophiques. Mais d'exposition, à ma connaissance, non, du tout, non.
Très bien, ben merci Mathieu Orléans. On va pouvoir commencer cette déambulation dans les catacombes de la Cinémathèque de Paris et vous serez soumis aux questions de Philippe Rouillet, de Christophe Beer, de Sixtine Audebert et avec nous également Pacôme Thielman. Bonsoir Pacôme. Pourquoi Pacôme ? Parce que effectivement, c'est de Dracula à Buffy. Et quand on parle de Buffy, Pacôme se matérialise instantanément sous nos yeux.
Oui, je dois être le Buffy, Buffyologue de la bande.
Voilà, alors on n'en est pas encore à Buffy. On est dans cette première partie, Mathieu Orléans, qui s'appelle « Les vampires historiques ». Alors, historique en sens où, évidemment, avant la littérature, il y a le folklore, il y a l'anthropologie, il y a le témoignage des voyageurs, des diplomates, il y a les Don Calmet, les théologiens s'intéressent aux vampires. Et puis le vampire, avant de migrer, c'est une bonne chose, vers les capitales européennes, Paris, Londres, Berlin, eh bien, il est un peu perdu dans l'Europe balkanique et puis dans la Grèce. Donc là, on est aux racines romantiques du vampirisme.
Bah, ça me semblait essentiel, effectivement, de raconter un peu d'où vient le vampirisme. On en a tous une image à peu près, mais parfois très floue. Je me souviens quand j'ai parlé la première fois à des collectionneurs d'art lors d'un vernissage de mon projet sur les vampires, ils m'ont dit « Ah, les vampires, c'est Batman, non ?» Ça montrait qu'il y avait quand même un certain flou et que, avant de commencer à raconter des choses plus précises sur leur signification, les mutations récentes, il fallait commencer par raconter le béaba, c'est-à-dire d'où ça vient, quand est-ce que le nom est apparu, sur quel terreau historique tout ça s'est basé. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu évidemment commencer quand même par le plus simple, par le béaba, avec une petite introduction malgré tout qui donne un peu la teneur du reste de l'expo, c'est-à-dire sur des mélanges contemporains, histoire, archives, cinéma. Donc c'est une sorte de un peu de statement dès le début, mais ensuite effectivement je voulais raconter cette histoire en commençant, on va dire, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'apparition du mot vampire dans les dictionnaires, le dictionnaire philosophique de Voltaire, et puis la littérature gothique qui, au 19e, s'est emparée du mythe du vampire, de 1819, Polidori, jusqu'à Bram Stoker, Dracula. Donc essayez évidemment de raconter tout ça à l'aune du cinéma, parce que ces livres ont été adaptés, ces folklores se retrouvent dans des longs métrages illustres. Et donc dès le début, on a du cinéma, on a de la projection. L'exposition, en ce sens-là, n'est pas chronologique. Elle mélange toujours différentes époques, mais c'était essentiel de raconter effectivement d'où tout cela venait précisément. Et
Alors à côté d'une carte qui est à peu près l'Europe du vampirisme, qui est toujours en construction, il y a Fred Kubin, il y a Polidori, on voit. Et puis alors il y a deux étonnants affichages, il y a les feuillets manuscrits de Bram Stoker pour son adaptation de Dracula. Donc pour la première fois qu'on voit l'écriture de Bram Stoker avec la manière dont il faisait des manuscrits.
Exactement, alors je suis très heureux effectivement de pouvoir le montrer. Ici c'est sous forme de reproduction agrandie qui permet d'avoir une meilleure lisibilité du document, mais l'expo allant en Espagne, parenthèse, parce qu'elle est coproduite par un musée, la Caixa, elle ouvre à Madrid en février, là-bas on aura la chance, parce qu'on ne pouvait les exposer qu'une fois, les originaux. de la British Library, donc on pourra voir l'écriture en vrai. Parenthèse fermée, effectivement, on a ici un document assez rare qui montre l'écriture de Bram Stoker. Et Bram Stoker, qui n'était pas du tout, même s'il travaillait dans un théâtre, connaisseur peut-être de ces questions d'adaptation pour la scène, mais qui s'est essayé au genre. On voit donc son écriture, on voit des bouts de son livre publié, Dracula découpé, parce qu'à certains moments, le livre étant épistolaire et parlant donc à la première personne, il a comme ça utiliser des bouts de son propre roman, et ça montrait son souci dès le début, quoi, dès la fin du 19e, quelques années après la parution de son livre, son souci effectivement d'aller sur la scène, quoi, d'incarner le mythe. Il paraît que l'adaptation n'était pas très bonne, que il aurait fallu voilà beaucoup de travail pour pouvoir l'adapter tel quel. Du coup, ça n'a jamais été adapté, mais ensuite un ami anglais à lui, Hamilton Dean, qu'on retrouve aussi dans l'exposition, effectivement s'est chargé d'adapter ça pour la scène. D'abord en Angleterre où la pièce a été jouée un certain nombre d'années, et ensuite à Broadway où elle est devenue un best-seller et où elle amènera petit à petit au cinéma.
Philippe Rouillet, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on voit dans cette pièce évidemment tous les livres, toutes les pièces qui ont amené d'un point de vue de la littérature gothique à la figure du vampire, mais finalement le cinéma, et je pense que c'est à cause de ce passage par le théâtre, a avant tout gardé le Bram Stoker. Et dans cette pièce où on voit aussi on l'entend derrière nous, un montage en fait des adaptations littéraires, le roman de Bram Stoker se taille la part du lion. Parce qu'on s'aperçoit que évidemment il y a Bela Lugosi, le Todd Browning, mais avant le Nosferatu de Murnau, même s'il ne se dit pas Dracula pour des questions de droit, c'est déjà ça. Et puis ça va continuer jusqu'au Coppola et bien encore, bien après, Jess Franco, etc. Il ne se donne pas toujours le nom d'adaptation de Bram Stoker, mais c'est vraiment Bram Stoker qui va être servi en quelque sorte de modèle pour le cinéma.
C'est vrai qu'on a voulu, on a tenu aussi à montrer en parallèle de ces adaptations du livre de Stoker, les adaptations, parce qu'elles existent aussi, du livre de Sheridan Le Fanu, Carmilla, cette femme vampire. Il y a une longue tradition de femmes vampires dans la littérature française, allemande, anglaise, avant Dracula, et il me semblait important de l'expliciter ici. Les films sont moins cultes, moins connus, certains de la Hammer, certains tournés en Espagne, on a moins les registres de grands cinéastes, de films d'auteurs, comme on peut l'avoir pour Bram Stoker, mais malgré tout, c'était important de comparer les deux et de montrer que voilà, les deux ont eu une grande fortune, peut-être plus du côté de Dracula, mais que Carmilla, la grande sœur de Dracula, était quand même importante.
Surtout, il me semble que les adaptations de Carmilla sont moins proches du livre, que c'est plus la figure du vampire féminin qu'on adapte.
Oui, chez Bram Stoker, il y a ces topos que tout le monde connaît et qu'on montre effectivement ici dans cette bande de montage, c'est-à-dire le passage du col Borgo, la calèche, le premier dîner en tête-à-tête avec Dracula, le sang, voilà, exactement. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on retrouve et qui est très codifié, même si chaque cinéaste a sa propre interprétation.
Alors, Mathieu Orléans, deuxième salle de cette exposition Vampire de la Cinémathèque. On entrera, deuxième moyen de plonger le visiteur dans le climat vampirique, la forme de la vitrine, qui est celle d'un cercueil. Très bonne idée, c'est une excellente idée scénographique. Alors là, on est dans, je dirais, le complexe Nosferatu. Il y a à la fois des photos du film de Murnau, 1922. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'était l'année où est né Christopher Lee, comme quoi les phénomènes sont souvent conjoint, et puis le film de Werner Herzog. Donc là on est dans le fondamental aussi, mais le fondamental du cinéma.
Ça me semblait vraiment important de donner une très belle part à ces deux Nosferatu. Le premier Nosferatu 1922, adaptation, on vient de le dire, non autorisée effectivement du livre de Stoker, là où des années après le film d'Herzog de 1979 est lui une adaptation explicite du livre. D'ailleurs les noms sont récupérés dans le film de Murnau, les noms sont transformés, ils avaient l'impression qu'ils pouvaient dans ce sens-là ne pas être perçu et vu par la femme de Stoker comme étant une adaptation du livre. Herzog, lui, assume la part d'héritage du roman et la part d'héritage de Murnau, évidemment, une manière de se rattacher à l'histoire du cinéma allemand d'avant le nazisme, d'avant la barbarie. Et donc ces deux films sont évidemment très forts, très iconiques, très matriciels. Il se trouve qu'il y a beaucoup de documentation aussi sur ces deux films, donc c'est aussi un choix de muséographie de les mettre en valeur, parce qu'on a beaucoup de photographies, des documents préparatoires. En ce qui concerne Murnau, c'est tout le travail de son producteur, mais aussi chef décorateur Albin Grau, ésotériste, qui est à l'origine d'ailleurs du projet et qui a fait de nombreux dessins autour de Nosferatu, des dessins conservés en Suisse, très rarement montrés, et chez Herzog, également un chef décorateur, plus jeune, et Yannick von Gierke, qui a conservé, qui a eu l'intelligence de conserver tous les accessoires du film, comme autant de prélèvements mystérieux, que ça soit la robe de chambre d'Isabelle Adjani teintée de sang, le pieu, des lettres, de l'encre, des chapelets, des pierres, des rats. Tout ça, c'est une archive très rare. Souvent, c'est détruit après les films. Et là, quand on regarde ça, on ne sait plus si on est face à des accessoires de cinéma ou face à des objets qui proviendraient même de stalkers, de quelque chose de très originel et de très vrai, de très ancien, de très mythologique.
Une croix, un violon sans corde, une assiette.
Les étiquettes, en fait, qui donnent cet aspect d'objet peut-être réel. En fait, le décorateur, c'est un génie à retranscrire en écriture gothique pour donner l'illusion d'étiquettes anciennes comme des accessoires qui auraient été issus de la Transylvanie.
Exactement. De toute façon, maintenant, ils ont traversé le temps depuis 79, mais ils donnent l'impression d'être bien plus anciens. Et effectivement, ces légendes, ces petits cartons écrits en écriture gothique créent le trouble. On n'est pas face à un inventaire de musée avec un code barre et un nom tapé à la machine très scientifique. On est face à quelque chose qui est très, de vécu, tâtonnant. On a l'impression que c'est Nosferatu ou quelqu'un ou Stoker lui-même qui aurait rédigé ses notes et les aurait fourni à Werner Herzog.
Et le maquillage de Max Schreck, comment il a été élaboré? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Parce que donc Max Schreck, qui interprète Nosferatu, est une des toutes premières incarnations du vampire à l'écran, et c'est une incarnation très, très animale, presque bestiale, minérale aussi, comme un squelette, une sorte de zombie même, plutôt qu'un vampire. Il y a un autre acteur qui interprétera à part Kinski un vampire de ce genre, c'est Reginald Hare dans Les Vampires de Salem. Ce sont des vampires extrêmement horrifiants, alors que nous allons avoir des vampires ensuite plus romantiques. Oui.
En tout cas, ce que vous dites est très juste. Après, je ne sais pas exactement ce qui a présidé au costume, à la mise en scène précise. Ce qu'on montre ici dans l'exposition quand même, ce sont peut-être des coïncidences, parce qu'on ne sait pas véritablement la chronologie, qu'est-ce qui était avant ou pas le Murnau, mais des gravures, des dessins qui montrent qu'à l'époque, il y avait des sortes de Max Schreck chauves avec des longs doigts, des crocs, des dents de serpent, qui pouvaient comme ça réapparaître dans des ouvrages qui n'ont pas à voir directement avec Stoker. Et ces coïncidences m'intéressaient. Donc on en montre une ici qui a été faite par Harry Clark et qui s'appelle « La dernière heure de la nuit » et où l'on voit un personnage dans une ville en feu, je crois que c'est Dublin si je ne me trompe pas, qui effectivement ressemble énormément au Nosferatu. Ça date de 1922, donc avant, après le Murnau, je ne sais pas. Mais effectivement, il semblerait qu'il y ait quelque chose dans l'époque qui se soit comme ça manifesté, cristallisé autour de cette figure monstrueuse du vampire.
Là devant nous, des photos qui apparemment ne sont pas particulièrement vampiriques, mais qu'on aurait le tort de le penser, puisque c'est la reconstitution du voyage de Jonathan Harker, mais aujourd'hui.
Alors, je trouvais ça très intéressant de montrer cette œuvre. J'aime beaucoup cet artiste danois qui s'appelle Joachim Koester, qui d'ailleurs est aussi très dans son genre ésotériste, qui a beaucoup travaillé sur les questions des phalanstères, des groupes dans les années 20-70, de sectes, d'hallucinogènes. Enfin, quelqu'un qui a un travail à la fois photographique, performatif, vidéo, et qui s'intéresse à ces questions. Et j'ai découvert qu'il avait prolongé sa réflexion jusqu'à suivre le trajet de Jonathan Harker en Roumanie. On sait tous que Stoker n'est pas sorti d'Angleterre quand il a rédigé son livre, de Londres. Il s'est beaucoup documenté au British Museum, mais il n'a pas été sur les traces de son Dracula. Il a inventé cette Roumanie, cette Transylvanie, ces Carpates. Et des décennies après, presque un siècle après, Joachim Koester, ce jeune artiste danois, donc, va sur les traces de Dracula, de Harker et de Stoker à la fois, pour montrer le chemin, le fameux chemin si précisément décrit dans le livre, du village de Bistritia, le col Borgo, jusqu'à l'arrivée dans le château de Dracula. Alors aujourd'hui, visiblement, a été construit sur le lieu du château hypothétique, fictionnel de Stoker, du coup un hôtel touristique qui s'appelle l'hôtel Château Dracula, où dorment les groupes de touristes qui visitent la région. Région dont Custer montre aussi la réalité brutale, c'est-à-dire une déforestation massive. Il parle de corruption, évidemment des bâtiments de l'ex-ère soviétique très abîmés, très endommagés. Donc c'est une Roumanie à la fois ancienne, mythologique, qui rappelle celle de Stoker, mais aussi une Roumanie telle qu'on peut la voir très prosaïquement aujourd'hui. Et c'est à nous de faire le lien, la fusion entre ces différentes temporalités.
Alors nous continuons de passer de chambre en chambre, de salle en salle, et nous arrivons maintenant, Mathieu Orléans, parmi les vampires poétiques. Alors l'expression vampire poétique peut sembler incongrue, mais pas du tout, puisque vous montrez qu'il y a une sorte de poésie de la prédation, une sorte de poésie de la sauvagerie qui a été inventée, et là vous le montrez, par Hollywood.
Voilà, ça m'intéressait d'ensuite de vraiment essayer de faire réfléchir le spectateur à cette place particulière du cinéma dans le vampirisme. C'est-à-dire que très naturellement, dès les premières salles de l'expo, vous l'avez dit, des extraits de films arrivent, des extraits de films qui illustrent Bram Stoker, qui l'ont adapté d'un point de vue personnel, mais ne se pose pas tout de suite la question, mais après tout, pourquoi le cinéma à ce point a utilisé le mythe du vampire? Certes, le cinéma est peut-être plus que la littérature même, l'art des métamorphoses, l'art du temps qui passe, qui sont les thèmes même du livre de Stoker et qui du coup sont rendus au centuple dans les films. Et je pense que c'est une des raisons, c'est l'essence même du cinéma qui a permis cet accord entre vampirisme et cinéma. Mais on se rend compte qu'effectivement il y a peut-être, c'est une question, c'est ouvert, c'est évidemment ça un peu de la poésie, est-ce qu'il n'y aurait pas dans le pacte cinématographique avec ses acteurs, avec le spectateur, quelque chose d'un peu vampirique? Quand on y pense, on tourne dans un studio qui ressemble un peu à un cercueil, on se coupe absolument de la lumière du jour qui peut parasiter les lumières artificielles. Les acteurs, une fois filmés, ne vieillissent jamais sur la pellicule. Pellicule qui craint la lumière, qui craint le feu, qui est projetée dans le noir, dans une sorte de caveau, avec des spectateurs hypnotisés par les images, plus ou moins, mais on l'a beaucoup dit, ça a été théorisé énormément. Cinéma où les caméras ne se reflètent pas dans les miroirs, la liste est longue. On pourrait effectivement voir dans le cinéma une sorte de métaphore de liens à définir avec l'art vampirique. Processus vampirique, exactement.
Puis les salles obscures sont d'autres caveaux. Christophe Beer.
C'est aussi que le comédien est un vampire. C'est le système hollywoodien l'a vraiment montré. Dans l'exposition, il y a un diptyque avec Theda Bara, qui n'a jamais joué le rôle d'une vampire, mais qui a été une des premières femmes fatales pour laquelle on a créé le terme de vamp. Et puis surtout, un de mes vampires préférés, qui est à sa droite, qui est Bela Lugosi, qui lui est une sorte de Rudolf Valentino du vampirisme, mais avec un côté très particulier, très singulier. Lugosi apporte une dimension grotesque, et il est aussi dans son jeu, il dénonce tous les artifices. C'est un peu comme un illusionniste ou un metteur en scène ou un acteur qui montre ses tours. Il fait du vampire aussi un personnage de passeur. Et il y a une scène très belle dans le Todd Browning où on voit Mina qui s'avance dans le parc, Lugosi qui l'attend au milieu du cadre, qui ouvre sa cape immense et puis qui engouffre Mina. C'est comme si elle passait d'un monde à l'autre, du monde diurne au monde nocturne, au monde des pulsions. Et en définitive, Lugosi est peut-être un des premiers vampires à se révolter contre un ordre établi, l'ordre des médecins, la psychanalyse. Et Todd Browning, avec l'aura de Bela Lugosi, affirme la puissance du rêve.
C'est vrai que c'était en tout cas important pour nous de montrer les différents visages de Lugosi à travers le temps. Il a joué un certain nombre de Dracula, mais dans des contextes différents, c'est sûr. Chez Todd Browning lui-même, entre le Dracula de 31 et La Marque du Vampire, qui est un peu son double burlesque, où effectivement le vampire lui-même n'est plus qu'un acteur. Dans le film, je veux dire, c'est une sorte de supercherie. Et le vampire dont ton spectateur a l'intuition qui peut être dangereux mais en même temps humoristique se révèle finalement être un faux vampire. Donc voilà, tous ces jeux de mise en abîme qui sont présents dans les films eux-mêmes, c'est pas simplement de la théorie, mais c'est vrai qu'il y a cette distanciation très intéressante chez Lugosi. Quelqu'un m'a dit, mais j'ai pas réussi trop à enquêter, à trouver des... Il aurait fallu que j'aille, je pense, dans les archives Universal à Los Angeles, que quelqu'un avait voulu un peu le trahir et avait copyrighté son geste. Qu'à un moment donné, on n'avait pas le droit à Hollywood de faire le fameux geste des deux mains avec les trois doigts de chaque côté, parce que ça avait été copyrighté, qu'on pouvait copyrighter des gestes. et pas simplement des textes, des essais ou des œuvres. Et que, voilà, en tout cas, ça montre bien ce code du vampire.
Dans la rétrospective, vous allez aussi projeter la version espagnole qui a été en fait une sorte de version vampire de la version de Todd Browning la nuit, enfin le soir après le tournage du film de Browning. George Medford allait tourner dans les mêmes décors avec un autre acteur qui avait droit lui de regarder les rushs pour essayer de mimer les gestes et les regards de Bela Lugosi.
Oui, on va le montrer, effectivement, le film de Medford est intéressant. Ça se faisait à l'époque, d'avoir des films multilingues refaits avec des acteurs différents dans les mêmes décors. Mais c'est vrai que ça prend tout son sens et toute son ampleur avec ce film-là en particulier.
C'est vraiment très émouvant, cette exposition, parce que moi j'ai l'impression que pour la découvrir là avec vous et l'avoir un peu visitée, elle arrive à retranscrire exactement l'émotion qu'on peut avoir quand on découvre enfant pour la première fois l'univers gothique des films de vampires. Pour autant, elle n'est pas sur un mode du tout caricatural, ou elle essaie pas d'imiter ça, mais elle retrouve dans son parcours même le caractère de jeu de piste et le caractère d'indice. Pour moi, c'est comme des indices d'une réalité qu'on a traversée toute notre vie. Les vampires sont là pour pointer symboliquement quelque chose qu'on connaît, qu'on n'arrive pas exactement à identifier. Et vous parlez de ce que ça traverse dans le cinéma. Je crois qu'il y a une partie aussi où vous parlez de la politique. C'est très intéressant, l'aller-retour entre les deux. C'est-à-dire que se déploie poétiquement quelque chose qui en même temps s'analyse politiquement. Et chez les vampires, c'est très très clair, ça.
C'est vrai que cette idée d'indice, en tout cas de narration, avec des moments de ralenti, de surplace, et surtout de raccord comme ça, pas faux raccord, mais de raccord un peu détonnant, j'y tenais, quoi. Et que tout soit pas purement linéaire, parce que ça serait pas rendre hommage au mystère des vampires. Dans la salle d'avant, par exemple, on montre des photos de James Dean photographiées dans un funérarium avant sa mort. C'est pas vampirique au sens propre, mais ça dit quelque chose de l'acteur, de son aura, de l'acteur qui va disparaître, qui en a l'intuition, qui sait qu'il va être immortalisé, embaumé sur la pellicule. Tout ça sont des petits pas de côté qui me semblaient importants. Avec ce fil narratif évidemment très lisible, mais c'est pas de côté effectivement rendre compte de cette chose un peu indicible du côté des vampires que je ne voulais pas trahir. Oui.
Vous avez parlé au début de l'émission du film Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Est-ce que vous avez pensé à leur Wall of Fame ? Parce que moi, ça me fait penser un petit peu à ça, le Wall of Fame des vampires du film de Jarmusch, où ils ont un mur avec toutes les figures qui, pour eux, font sens, qu'elles viennent de la poésie classique, de la poésie romantique, du rock, du cinéma. Et on a ça un peu ici aussi, parce que quand on voit des passages de Out 1 de Rivette, c'est pas un film de vampire, mais il y a quelque chose du vampire dans la figure de Juliette Berthaud. Pareil, là, on a les éléments politiques, vous parlez de James Dean. Ce qui est très intéressant, c'est que ça étende la question du vampire au-delà de la figure du vampire.
Oui, c'était vraiment le but de l'exposition, quoi, d'être assez exhaustif sur les apparitions vampiriques, tout support confondu, transdisciplinaire, transgenre, que ça soit effectivement la littérature, le cinéma, mais peu à peu des figures peut-être parfois plus anonymes, des dessins publiés comme des pamphlets dans la presse, aujourd'hui c'est sur Internet. Pour certains des dessins qui représentent des vampires, on en connaît les auteurs, parfois on ne les connaît pas, et c'est le sujet qui prime, c'est la représentation qui est encore plus forte, et à chaque fois qui est là pour dénoncer quelque chose. Et là où c'est passionnant, c'est que la dénonciation, elle est de plein de côtés différents, on n'est jamais du même camp. Le vampire est très polymorphe, très métamorphique, parce que le vampire représente souvent l'ennemi, celui dont on se méfie. En fonction du camp dans lequel on se situe, le vampire va prendre différents visages. Donc il n'est pas assigné à un rôle. Dans le cinéma, c'est exactement la même chose, mais il représente tantôt le capitalisme, mais il peut représenter exactement son contraire, de la même manière qu'il représente le mal contaminant au moment de l'apparition d'épidémie de sida, mais il finit par représenter aussi le docteur qui aide les jeunes sur certaines caricatures publiées sur Internet, le docteur qui aide les jeunes à appréhender leur sexualité. Et donc on voit bien que le vampire apparaît sous ses formes un petit peu mineures, à plein d'endroits différents et inattendus, et on voulait aussi montrer ça, pas simplement le cinéma, la littérature et les beaux-arts, mais aussi ces incursions du vampirisme dans la presse quotidienne. On vit tous avec des vampires tous les jours, en fait, sans s'en rendre compte. Depuis, je me suis rendu compte le nombre de vampires qui apparaissent chaque jour dans des publicités. C'est assez amusant.
Oui, puisque là, on est dans la troisième salle, la salle vampire politique au pluriel. Alors, c'est une vieille histoire, parce que dès les origines de l'intérêt européen pour le vampirisme, la politique est là. Voltaire comparait les agioteurs de la rue Quincampoix, à l'époque de la faillite de l'eau, à des vampires, à des gens qui étaient là pour... c'était l'or qu'on captait. Marx a largement usé de la métaphore vampirique pour qualifier l'argent mort qui suçait le sang des travailleurs. Et puis après, vous, comme vous le montrez sur par les journaux qui sont exposés sur ces murs, il y a véritablement tradition du vampirisme utilisé comme métaphore révolutionnaire, le vampire étant d'ailleurs le capitaliste. Et c'est intéressant de voir que la tenue de Bela Lugosi, c'est la tenue, c'est Godard l'avait noté, c'est la tenue de gala, c'est la tenue que mettent, je dirais, les capitalistes quand ils se réunissent entre eux dans des soirées de charité ou dans des banquets. Donc il y a déjà quelque chose de très fort. Et puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le vampire change de camp politiquement. Il est à la fois qualifie à la fois le capitalisme, l'homme qui ou le président des États-Unis, on voit George Bush en train de mordre au cou la statue de la liberté, mais il peut également qualifier la marginalité. C'est-à-dire qu'il est au debout du spectre social. Il y a à la fois le maître impitoyable, le sauvage, le baron voleur, et en même temps le marginal, le SDF qui vit dans les ruines. Mathieu Orléans.
Oui, on a beaucoup essayé de traiter ça. J'espère en tout cas que ça fonctionne, parce que c'est vrai que c'est une histoire complexe du coup à raconter. Elle n'est pas linéaire du tout, et qu'effectivement le vampire est à différentes positions, postures. Et il a différents masques en fonction de là où on se situe, de l'époque dans laquelle on est, et que dans le cinéma américain, où il est très largement représenté, peut-être plus que dans toutes les cinématographies, il va souvent représenter plutôt là, effectivement, la marginalité. On le voit par exemple dans le film de Catherine Bigelow, qui est un très beau film, Aux frontières de l'aube, voilà, un de ses premiers films. On a cette communauté de vampires qui vivent dans une caravane, qui sont le contraire de tous les personnages qu'on voit dans le film, qui sont très assis sur un terrain, c'est la famille, les enfants, le père. Là, au contraire, on a un groupe qui s'est constitué sa propre famille, qui vit totalement en autarcie, sauf qu'ils ont besoin de se nourrir du sang des humains, et qui, du coup, évidemment, les contaminent, mais qui vivent dans cette petite caravane, sillonnent le centre des États-Unis. C'est à la fois des sans domicile fixe, on pense aussi à la Grande Dépression, ces images des Américains en haillons qui traversaient le pays. On ne sait pas très bien les situer. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont créé leur propre communauté, qui à la fois, finalement, devient au final presque sclérosante. Et on suit le destin d'une jeune femme qui appartient à cette communauté de vampires et qui finalement se rend compte qu'elle est un peu prisonnière et que, à force de vouloir recréer finalement des codes, une certaine normativité, même à l'intérieur de cette marginalité, elle veut à son tour s'en échapper et presque redevenir humaine pour vivre une histoire d'amour. L'amour étant peut-être la chose qui transcende et qui n'est ni du côté de la communauté ni du côté de la famille, mais quelque chose d'un lien unique, sacré. Et elle fait tout pour essayer finalement d'échapper à cette communauté qui est cette deuxième famille qui a pris le dessus.
Et c'est dans cette salle qu'on retrouve aussi le côté société secrète des vampires, avec le film de Feuillade, dès 1915 en France, Les Vampires. C'est l'autre versant. Il y avait la vamp hollywoodienne et il y a les vampires français. Donc les vampires sont en fait des malfaiteurs. Et il y a Musidora et son fameux Justaucorps, hein, de Montanlhaire, qui va, et il y a une filiation avec évidemment Olivier Assayas, Irma Webb, quoi. Il fait jouer à Maggie Cheung, Irma Webb, qui est l'anagramme de vampire, où, avec ce moment où elle va reprendre le costume de Musidora. D'ailleurs, il faut dire, c'est peut-être l'occasion de dire qu'il y a un très beau catalogue qui accompagne cette exposition, avec des entretiens. Un entretien, par exemple, avec Werner Herzog, qui rappelle comment, dans son film, évidemment, c'est un retour à Murnau, mais à travers Murnau, c'est un retour avec la société de ses grands-parents, c'est-à-dire qu'on sacrifie la société des parents à cause du nazisme pour cet Allemand dans les années 70. Et puis il y a un entretien avec Assayas qui retrouve cette filiation du vampire français, hein, via Feuillade et en citant Rivette que Pacôme annonçait tout à l'heure. Et donc voilà, ce qui est passionnant de faire une exposition comme ça à la Cinémathèque, c'est que on s'y réfère sans cesse. Il y a les films qui passent en marge de l'exposition, et puis il y a ce catalogue qui permet de retrouver et de borner un peu tous ces grands moments de l'histoire du cinéma et les points inter-art.
On continue notre progression. On passe devant l'affiche d'un film assez méconnu quand même, faut le dire, de Anna Lily Amirpour, A Girl Walks Home Alone at Night, qui est un film réalisé par une cinéaste iranienne, Mathieu Orléans.
Alors effectivement, le choix de l'affiche, c'est plusieurs raisons. Elle est visuellement très forte, rouge, avec ses yeux qui sont presque masqués, qu'on ne voit pas, dissimulés, qui sont en écho à tout ce qu'on trouve dans cette salle, à la fois une œuvre de Mike Kelly et une autre affiche d'un film de Ferrara. Donc ça, c'est pour l'aspect visuel, rouge, noir et blanc, qui est très cohérent et qui est aussi un guide quand on fait une expo. C'est que les choses soient appréhendables d'une manière sensitive et émotionnelle, mais aussi ce que ça raconte. Alors ce film, il n'est pas connu, il a été très mal distribué en France, les gens ne le connaissent pas. On en montre un tout petit extrait à côté, mais c'est évidemment peu de choses par rapport au film que je recommande, qui a l'étrangeté d'avoir été tourné aux États-Unis, en Californie, mais tourné par une cinéaste qui est d'origine iranienne et qui a choisi uniquement des acteurs de la même communauté, qui donc parle farsi, persan, tout est écrit en farsi sur les murs, on ne sait plus très bien où on est, et on suit une sorte de justicière qui, sur son skateboard, tue des humains ou les transforme en vampires, avec quand même un choix. Elle a une certaine éthique, cette justicière, elle se venge d'hommes qui désirent la violer ou de personnalités qui sont comme ça abusives vis-à-vis d'elle. Donc elle suit un chemin, c'est pas comme d'autres vampires qu'on a vu beaucoup, qui sont plutôt pris par une pulsion et qui peuvent pas contrôler leur morsure. Elle a vraiment un fil conducteur, et elle a la particularité de ne plus avoir un voile ou une cape, mais d'avoir un tchador, d'avoir la tenue intégrale du voir noir iranien qu'on connaît de toutes les photos. Et sans en faire un statement politique, le film n'a pas cette ambition. Elle dit elle-même que c'est un western spaghetti, donc elle le prend aussi dans un genre très cinématographique. Malgré tout, ça pose des questions de cette femme vampire. C'est pas un hasard, on sait le rôle assigné aux femmes dans la société iranienne. Tout d'un coup, c'est une femme qui prend le pouvoir, c'est une femme qui est justicière. Elle joue tout d'un coup de ce voile intégral noir pour se dissimuler, ça devient presque une force, parce que grâce à ça, elle n'est pas toujours appréhendable et elle peut se cacher. Donc voilà, c'est intelligent, drôle, sensible, et ça permet de parler du vampirisme d'une autre culture. On sait que c'est quand même une culture très occidentale, le vampire né en Europe centrale, et que c'est un mythe qu'on va retrouver en Europe et aux États-Unis. Mais il y a des apparitions vampiriques en Iran, aux Philippines, au Nigeria, au Japon, en Corée, peu, mais intéressantes, et même dans des genres mineurs. Ça dit souvent quelque chose de l'état de la société dans lequel le film a été fait. C'est là où c'est intéressant et pertinent.
On retrouve la politique. Tiens, que voit-on là ? Là, nous sommes devant des œuvres d'art contemporain, Mathieu Orléans, parce que justement, on n'est pas uniquement entouré d'affiches, de photos de tournage, de costumes, aussi somptueux ou passionnants soient-ils ou soient-elles, mais il y a également la présence, je dirais, de l'art contemporain dans le mythe vampirique.
Ça me semblait très important qu'on ouvre le champ. Chaque partie a un peu sa tonalité. Donc la première partie de l'expo, on est plus dans un dialogue cinéma-littérature, pour le faire vite. Et après, dans cette partie politique, ça commence sur un dialogue cinéma et journaux, pamphlets, manifestations, caricatures, et puis art contemporain qui évidemment prennent de l'ampleur. Et on se retrouve dans une salle, effectivement, où il y a en majesté un très grand Mike Kelly, un Nikita Saint-Phal, une œuvre de West Lang, une œuvre de Basquiat aussi. Donc on est effectivement dans quelque chose qui ressemble à une galerie, mais c'est pas par hasard qu'ils sont là. Ce sont des artistes qui ont souvent en commun cette contestation, cette anticonformisme, des artistes de la contre-culture. Même Nikita Saint-Phal aujourd'hui, elle est évidemment une artiste très connue, très muséale, mais il faut se souvenir de ce qu'elle faisait, de ses tirs, de tout ce qu'elle a pu dire sur je crois le viol de son père, enfin quelque chose contre la société patriarcale, très violent, et la prise en main des femmes. Donc c'est pas hasard si Nikita Saint-Phal aussi, elle a fait cet hôtel tombeau vampire qui est une sorte de caricature d'un hôtel catholique, et qui est venu comme ça brouillé par l'apparition d'une chauve-souris qui vient s'intégrer entre deux anges et deux motifs floraux très purs, et que tout d'un coup, c'est comme si voilà, il y avait quelque chose dans cet objet sacré qui était perturbé par le démon, par quelque chose de l'au-delà, de pulsionnel. Et voilà, je voulais montrer à travers ces artistes effectivement que le vampirisme était présent aussi dans les musées et pas simplement dans le cinéma, aux spectateurs de faire le lien, le dialogue, parce que le cinéma n'est jamais loin, mais c'est un collage mental qu'on est un peu obligé de faire, quoi.
Alors nous étions dans un univers noir, sombre, ou au contraire très pâle, qui sont des tonalités chromatiques du vampirisme, et là brusquement on est immergé en pleine zone rouge, pourpre, carmin, on est dans le sang, on est dans la chair, on est dans l'érotisme, Sixtine Audebert.
C'est ça, dans le rouge de la sensualité, et c'est vrai qu'on n'a pas encore peu dit à quel point le vampire servait aussi de métaphore moraliste, alors moraliste catholique, mais surtout peut-être moraliste chrétienne et donc protestante, pour une sexualité débridée et criminalisée. Alors au début, avec Bram Stoker, c'est le moment où il y a cette prolifération de la syphilis, et donc le vampire sert de métaphore à ça. Et là, ici, on a aussi beaucoup de films de la Hammer dans cette salle qui sont montrés. Et c'est vrai que c'est aussi au moment où, juste avant la libération sexuelle, et donc où encore le vampire va servir de tremplin à l'évocation d'une sexualité qui est à la fois inquiétante et en même temps tellement fascinante, et qui est là larvée en creux et qui va se développer. Et après, on a Interview avec un vampire, dont il y a les costumes qui sont présentés dans cette salle, où là aussi on a un moment, peut-être au moment où la sexualité chez les jeunes se déploie de manière beaucoup plus décomplexée, hein, c'est la période après le disco, et de nouveau, alors après récupéré par les fans d'Anne Rice à cette époque, puisque c'est elle qui avait écrit le livre original d'Entretien avec un vampire, cette angoisse par rapport au virus du sida qui se... Donc à chaque fois une espèce de tension autour de est-ce que la sexualité attirante est dangereuse ou non, et comme beaucoup de figures du fantastique, il sert à mettre en tension cette...
Non, c'est très juste, je voulais juste attirer l'attention sur une photo des lèvres rouges d'Harry Kummel, avec Delphine Seyrig, qui joue une comtesse vampire, bon, revisitation de la comtesse Bathory, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais qui est un modèle historique possible de Dracula, cette femme qui était fascinée par le sang au point de s'en baigner pour rester éternellement jeune. Et Delphine Seyrig, qui avait tout un propos, parce qu'à l'époque, elle était très très investie dans le mouvement féministe, et je suis tombé sur une archive, quelques temps après le tournage du Kummel, où elle parle, de son point de vue à elle, de femme féministe engagée, du film, du vampirisme, et elle a cette petite formule en disant « Oui, je crois que les récits de vampires ont peut-être été inventés par des hommes pour faire peur aux jeunes femmes et leur interdire de sortir de la maison, de surtout pas avoir de sexualité. C'est une manière de les enfermer encore plus dans cette maison devenue presque un tombeau. » Et donc voilà, ça va un peu en écho avec ce que vous dites, cette question effectivement de la libération sexuelle, et pas à hasard si... parmi les sex symboles qui ont joué les vampires, hommes et femmes vampires, on a Delphine Seyrig, dont on sait l'engagement auprès des femmes.
Quelques mots sur ses costumes, Mathieu Orléans, somptueux, notamment la cape qui ruisselle, une espèce de flot de sang là. Magnifique.
Pour cette partie érotique, on a voulu jouer le côté un peu fétichiste dans les couleurs, dans la moquette. Et c'est vrai qu'on a à nouveau beaucoup de photos. On sait que les cinéphiles aiment beaucoup, voilà, les photos, les objets, des belles affiches, quelque chose qui est de l'ordre d'un peu du velours, un peu de magique, de sacré à l'ancienne. Pas hasard non plus, on a aussi pas loin à proximité le tableau 19e de Bouguereau, l'œuvre de Apou, et les costumes, donc pour y revenir, qui sont magnifiques, qui viennent de Sony Pictures, qui est l'ayant droit du film, de costumes qui ont été conservés. De Dracula de Coppola. Donc la cape rouge de Gary Oldman et la robe portée par Winona Ryder au début du film. Donc deux costumes très iconiques, très beaux, designés par une japonaise. Donc ils ont une dimension un petit peu orientaliste, un petit peu chinoise même, par les broderies, par les motifs de dragon qu'on retrouve. Là, d'un coup, ça fait un lien inattendu entre le dragon, dont on sait que Dracula... Et auquel Dracula a été lié, parce que Dracula veut dire l'ordre du dragon, du petit dragon, et que donc c'était un ordre à l'époque dans les pays de l'Est à laquelle il appartenait, motif du dragon qu'on retrouve beaucoup dans la culture évidemment asiatique. Donc voilà, un costume qui est assez polysémique, riche, très bien conservé, qu'on a mis en regard effectivement de deux autres costumes. C'est la seule partie de l'expo où on a vraiment beaucoup de costumes, de Entretien avec un vampire, le costume de Tom Cruise et de la petite Kirsten Dunst.
Alors là, on est dans une civilité des Lumières. Là. C'est un costume du XVIIIe siècle, le Tom Cruise.
Voilà, les deux costumes sont aussi des costumes historiques. Il y a un lien entre les deux. On ne parle pas de la même période, parce qu'évidemment, les costumes du Dracula de Coppola sont dans un hors-temps. C'est une sorte de Moyen-Âge fantasmé, asiatique, alors que effectivement les costumes du Entretien avec un vampire se situent dans la temporalité définie par Anne Rice, qui effectivement a ce côté 19e, très beau, et les deux costumes me semblaient aller particulièrement bien ensemble.
Et ces deux versions de l'érotisme, quand on compare les deux films, celui de Coppola renvoie à la naissance du cinéma. Il rappelle que Bram Stoker, c'est contemporain de la naissance du cinéma, et on le voit, l'ouverture caricature, c'est presque du pré-cinéma. On a une séance de cinéma et la dimension érotique du vampire est clairement liée au cinéma dans le film de Coppola.
Alors, on est devant un tableau qui n'est pas, je dirais, spécifiquement vampirique, qui est un tableau de Bouguereau, qui représente donc un moment de la visite de Dante et de Virgile aux enfers, et on voit deux damnés nus, l'un étreignant l'autre sur un mode vampirique et le mordant avec une férocité, il est roux d'ailleurs, une férocité terrible au cou. Et ça montre bien là, je dirais, effectivement, à quel point votre schéma fonctionne à plein, puisqu'on pense au vampire alors que ça ne l'est pas. Ça veut dire que vous dites quelque part que le vampire explose dans le ciel et les retombées du vampirisme sont très variées. Et celle-là, notamment, en est une, puisque sans être un tableau objectivement vampirique, il l'est totalement.
Ce qui est fascinant dans le tableau, qui est magnifique, c'est la dimension bisexuelle qui était déjà présente dans le cinéma, enfin même dans le texte de Bram Stoker, mais dans le Dracula de Todd Browning, quand on voit la façon dont Bela Lugosi chasse les femmes vampires pour vampiriser Renfield, après ça se passe hors champ parce que nous sommes en 1931, il y a déjà cette dimension bisexuelle qui parfois est abandonnée dans les années actuelles du vampirisme je trouve qu'il y a des films où on met en valeur une sorte d'hétérosexualité vampirique. Le Coppola le Dracula de Coppola est un triomphe d'un amour qu'on pourrait qualifier de bourgeois.
C'est dit. Sixtine Audebert.
Oui, c'est vrai que dans Twilight, en tout cas, il représente assez clairement le retour de la conjugalité et donc de l'attente avant le mariage pour consommer l'acte sexuel.
D'autant qu'aux origines, Mathieu Orléans, du vampirisme artistique, culturel, il y a une parité qui est assez respectée, puisqu'on a Carmilla et Dracula. D'un côté, le grand seigneur méchant homme qui vampirise les jeunes filles de l'Angleterre victorienne, et de l'autre, eh bien, une femme. Donc il y a eu une espèce de repli, on peut dire, sur le vampirisme hétérosexuel, mais quand même, dès les origines, les choses sont assez partagées.
Oui, Carmilla, il y a une dimension clairement homosexuelle dans cet institut de jeunes filles en Europe centrale, qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les adaptations qu'on voit ici cinématographiques, et dans cette œuvre de Léonore Fini, qui est une série de sérigraphies réalisées pour illustrer un livre rare et très beau de Sheridan Le Fanu Carmilla dans une édition luxueuse. Et Léonore Fini avait réalisé ces 8 sérigraphies dont on ressent, pressent, devine, de manière explicite ou pas, ça dépend des sérigraphies, la dimension effectivement homo-érotique, lesbien qui est présente dans le livre et voilà, qui fait partie et qui est en écho total à ce qu'on vient de dire sur l'œuvre de Bouguereau juste à côté et qui effectivement montre une sexualité extrêmement diversifiée, parfois provocatrice. C'est vrai que dans Entretien avec un vampire, le fait que Kirsten Dunst reste éternellement une enfant, c'est le principe des vampires, une fois qu'ils ont été vampirisés, ils restent vampires à l'âge qu'ils ont eu au moment où ils ont été contaminés. Pourrait-on dire, Kirsten Dunst reste une sorte de femme-enfant très troublante, dont on ne sait si elle est la fille de Tom Cruise et de Brad Pitt, ou leur épouse, quelque chose qui évidemment vient troubler la notion de famille pour en montrer un visage nouveau, provoquant, troublant, qui fait que la sexualité, même si elle n'est pas explicite toujours dans le film, elle est entre les lignes et elle crée une étrangeté inquiétante dans le rapport entre ces trois personnages principaux.
C'est pour ça que moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Christophe tout à l'heure. Il me semble qu'au contraire, plus on avance dans l'histoire du cinéma, plus la sexualité des vampires devient multiple et explicite. Hein. Et le côté déviant, toutes les sexualités sont là, explosent littéralement. Et c'est très rare de voir un film qui ne serait pas aujourd'hui, un film de vampire qui ne serait pas queer. Le film de Jarmusch dont vous parliez tout à l'heure l'est évidemment complètement.
On va maintenant aller vers la dernière et cinquième et dernière salle de cette exposition Vampire à la Cinémathèque à Paris. Et alors, avant de se consacrer plus directement au Vampire Pop, puisque c'est le nom de cette dernière salle, on s'arrêtait pas ponctuellement devant ce mur, qui est un mur qui nous est cher. Tous les murs nous sont chers, à part du moment où il y a des vampires. Mais celui-là, on doit confesser qu'il nous est particulièrement cher. Pourquoi ?
parce que c'est un mur entièrement composé à partir d'images et de films, de dessins, de notes et d'objets de Bertrand Mandicot. C'est un wall of fame à lui tout seul. C'est le mur de la gloire de Bertrand Mandicot.
Alors on va parler de ce mur avec vous, Mathieu Orléans. On va lancer d'ailleurs un crowdfunding pour que Bertrand Mandicot fasse une adaptation de Nosferatu avec Christophe Beer dans le rôle-titre. Mais ça, c'est un autre projet. Mathieu Orléans, alors pourquoi ce mur Bertrand Mandicot? Il y a à côté, il y a une salle Charles Maton. Il y a quand même, pour vous, des créateurs aujourd'hui, ou à date très récente, parmi une espèce de poètes de l'écran, poètes de l'image, qui sont particulièrement aptes à capter les sortilèges du vampirisme.
Oui, tout à fait. Et il fallait, pour moi, l'occasion de rendre hommage, plus qu'hommage, parce que c'est une manière de créer avec eux quelque chose, enfin en tout cas pour Bertrand Mandicot, pas avec Charles Maton qui est décédé, mais de montrer la complexité d'une œuvre contemporaine, récente. Charles Maton avec ses boîtes vampires, ces sortes de dioramas dans lesquels quand on les regarde, on ne se voit pas, on ne se reflète pas. Et puis effectivement Bertrand Mandicot, que j'aime beaucoup, que je connaissais, il y a une dimension vampirique qui est un peu partout cachée, des films très hantés, très du côté du fantastique évidemment, même s'il n'a pas fait de film à proprement parler uniquement vampirique, mais ça me semble être quelque chose qui l'intéressait, et en parlant avec lui je me suis rendu compte que c'était plus que ça et qu'il fallait absolument l'inviter à relever le défi d'être présent dans cette exposition vampire. J'avais déjà pensé à Clovis Trouille et à Druillet dans des revisitations contemporaines de Nosferatu. À chaque fois on voit le Nosferatu ou en bande dessinée ou en tableau, mais des revisitations très pop, très contemporaines, même si elles datent pas de la même époque l'une et l'autre. Et chez Mandicot, voilà, dans quelle mesure on pouvait avoir aussi dans certains de ses collages photographiques des sortes de Nosferatu revisités avec le crâne chauve, les yeux, dans cet univers très très personnel, avec cette voilà ce qu'on sait, cette sorte de faune et de flore exubérante, ultra sexualisée, le rapport au sang, le rapport au corps abîmé, au corps morcelé. On est dans un sort de post-Cronenberg futuriste vampirique qui me passionnait. À un moment donné, j'ai eu, ça c'est une parenthèse, j'aurais bien aimé rendre hommage aussi à quelqu'un d'autre, mais il n'a pas voulu vraiment jouer le jeu, c'était plus compliqué de l'atteindre. Il n'était pas en France, mais aux États-Unis et au Mexique, c'est Guillermo del Toro, qui aussi est un créateur contemporain, où la dimension vampirique est présente dans beaucoup de ses œuvres, même Blade 2 évidemment, mais aussi dans des films non vampiriques. Et je sais qu'il a une collection, qu'il a aussi des carnets, des notes, des storyboards, un peu comme ce qu'on montre de Bertrand Mandicot, dans son genre, des figurines, et que j'aurais bien aimé aussi lui rendre hommage quelque part. Bon, comme il n'a pas répondu malgré les nombreuses relances, on a laissé tomber, mais ça pourrait être un des absents, un des fantômes de l'exposition, Guillermo del Toro.
Alors on a parlé de Dracula, bien évidemment. Maintenant on en arrive, après l'alpha, l'oméga, à Buffy. En effet, dans le catalogue, vous avez publié un texte, Paco Pielmont, consacré à Buffy et Buffy contre les vampires. Alors, quelle est un peu votre vision et plus largement votre lecture de la pop culture vampirique?
Alors, déjà, Buffy, ce qui est très intéressant, c'est la façon dès le premier épisode, Buffy, ça commence en 1997, ça commence par un renversement. C'est-à-dire, c'est l'idée de départ de Joss Whedon, c'est de dire, on va, la peur doit changer de camp. Donc ça commence avec deux adolescents qui rentrent dans une école, et c'est comme un début de truc d'horreur, c'est l'école la nuit, etc. Ils jouent à se faire peur et tout ça. Et en fait, le vampire, c'est la jeune fille blonde qui attaque le jeune homme. Et ensuite, une autre jeune fille blonde, qui va être l'héroïne de Buffy, elle va combattre les vampires, sera plus forte que tous les vampires. Et c'est en fait de faire de la victime habituelle du film de vampire, la jeune fille, la belle jeune fille. Mais c'est pas seulement les vampires, hein. C'est toute une poétique qui part de la mort de la belle jeune fille comme étant l'essence même de la beauté. C'est Edgar Poe qui disait ça, parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'imaginer une très belle jeune fille morte. Et donc c'est renverser ce truc-là, et c'est de jouer avec cette attente-là qui va être renversée pour quelque chose de plus fort encore. Et quand il s'agit des vampires dans Buffy, bien sûr que Buffy, c'est une série émancipatrice. Donc les vampires vont être des symboles du pouvoir. Bon, il n'y aura pas que des vampires d'ailleurs. C'est le titre, Vampire Slayer. Le vampire, c'est le principe. Tous les débuts de saison commencent où elle se tue des vampires comme ça, c'est très drôle. Et c'est le principe humoristique. Mais elle va affronter des plus en plus grands archétypes du pouvoir. La star, le pouvoir militaro-industriel, le pouvoir politique, tout ça avec des figures de monstres. Mais le vampire lui-même dans Buffy va se renverser puisque ses deux amoureux principaux sont deux vampires, Angel et Spike. Et Angel lui-même va avoir sa propre série. Angel est un vampire qui a renoncé, hein, qui a renoncé à tuer des gens, qui a toujours ça en lui, mais qui doit lutter contre sa propre pulsion homicide et qui va renverser cette chose qui serait comme une damnation en force. Et c'est aussi un travail sur ce que peut être les enjeux même de d'un être humain aujourd'hui. Donc pour moi, autant Buffy est une série qui est intéressante sur finalement qu'est-ce que c'est une femme ou qu'est-ce qu'on attend d'une femme, Angel c'est une série très intéressante sur qu'est-ce qu'on attend d'un homme. Et à travers la figure du vampire, c'est pas la figure de l'étranger, c'est la figure de soi-même qui est étudiée, soi-même en tant que vampire, qu'est-ce qu'on attend de soi, qu'est-ce qu'on peut être soi-même par rapport à ça.
Au fond des bandes dessinées, Sixtine Audebert,
un extrait diffusé du magnifique film de Toyo Ishida, Vampire Hunter D, que les auditeurs de Mauvais Genre doivent tous avoir vu et qui effectivement clôture magnifiquement cette exposition.
Mathieu Orléans, merci à vous d'avoir conçu cette exposition et d'avoir transformé pendant quelques mois, quelques semaines, la Cinémathèque en temple de la religion vampirique. D'autres activités évidemment liées à cette exposition, une grande rétrospective à la Cinémathèque, des conférences, notamment je crois le 19 décembre, Pacôme Thielman parlera de Buffy. Il y a le soir de la nuit d'Halloween, il y a une nuit vampire. Il y a donc à côté de l'exposition d'autres choses.
Enfin, oui, effectivement, vous l'avez, je pense, très bien dit. Cycle de films, d'abord les adaptations de Stoker, les films d'auteurs liés au vampirisme, des films ensuite plus série B, série Z qui sont organisés selon des thèmes précis ou des pays, les vampires hongkongais, les vampires mexicains, et effectivement des conférences, des visites guidées et aussi des groupes pour les adolescents qui, autour d'une visite, peuvent effectivement appréhender, mieux connaître développer leur connaissance du cinéma, à la fois pratique et théorique.
Merci Mathieu Orléans. Donc Vampire, de Dracula à Buffy, une exposition à ne pas rater, bien évidemment, qui est visible à la Cinémathèque à Paris, donc jusqu'au 19 janvier. Et pour ceux qui, hélas, ne pourront pas s'y rendre, eh bien, somptueux catalogue avec notamment des interviews passionnantes, notamment à Sayas, Werner Herzog, et puis des textes, on va parler, et Mandico, bien évidemment. Oula, j'allais l'oublier. Et des textes, notamment ceux de Pacôme sur Buffy. On remercie bien évidemment Élodie Dufour d'avoir organisé cette déambulation vampirique à la Cinémathèque. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Yann Frécy, Claire Poissignon, Claire Martin-Dugard, Céline Duchesnay, Sixtine Audebert, Pacôme Thielman, Philippe Rouillet, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve pour Mauvais Genre samedi prochain à la même heure. Là, nous serons avec le romancier sud-américain Mike Nicol. Et d'ici là, bonne nuit à tous.
What a soft white hand, soft as silk.